bien cet après-midi, on va repartir de là où on en était la dernière fois. Vous vous souvenez, je vous disais, ce petit schéma qui, dans notre distinction des rapports privés-publics, l'espace privé, l'espace public, bon, on avait dit, je vous rappelle rapidement, que cette distinction, on pouvait la dater historiquement, même si, bien sûr, les hommes ont toujours eu un comportement chez eux, si on veut, et puis un comportement à l'extérieur, de chez eux, mais ça n'était pas pensé en termes de rapport de fixe et d'espace. Tout simplement d'ailleurs parce que les valeurs qui étaient à l'œuvre dans l'un comme dans l'autre de ces espaces étaient rigoureusement les mêmes. Et donc il n'y avait pas lieu de distinguer ces deux espaces. Que cette distinction, on l'a vu, est venue en gros à des périodes. Enfin, il y a des correspondances, mais en même temps que cette distinction apparaît, c'est la montée de l'individualisme, c'est la montée de ce qu'on appelle la civilisation occidentale démocratique, donc la Révolution française, l'essor du capitalisme. Donc c'est en même temps tout ça, les guerres de religion. C'est en même temps tout cela est avec des décalages. Et tout ça correspond. Et donc s'instaure cette distinction entre le domaine des croyances, le domaine des références aux valeurs, le domaine des religions, ici, Dieu, mais qui reste là, le fait de l'espace privé. Chacun peut croire à ce qu'il veut. Il est d'ailleurs conseillé de croire. Mais chacun, en principe, croit à ce qu'il veut. Mais par contre, ces croyances n'interviennent pas en tant que telles au niveau de l'espace public. C'est-à-dire que l'espace public, c'est un espace, alors nécessaire, et on le verra tout à l'heure, parce que ce schéma-là, on va le transformer un petit peu, mais dans un premier temps, c'est pour la connaissance, c'est un espace qui échappe aux déterminations des différentes croyances paraît nécessaire pour que puisse se développer la connaissance. On verra que le même espace public, eh bien, va apparaître nécessaire également pour que puisse se développer quelque chose qu'on va pas parler encore, qu'on va parler maintenant, eh bien, c'est l'intérêt général. C'est-à-dire que l'intérêt général d'une société ne peut pas être déterminé par les croyances qui sont multiples et qui vont aboutir nous disent les idéologues de cette conception, va aboutir inévitablement aux guerres de religion. D'où il nous faut un espace neutre pour que puisse être construit, trouvé, défini l'intérêt général. Alors qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Bon. On verra. Et donc, cette distinction-là, privé, espace public, on avait vu, pour finir, qu'actuellement, eh bien, il y avait un troisième élément qui venait, de sorte, bouleverser cette distinction. Et qui pouvait relever, non pas de la connaissance, mais de la croyance, et qui est finalement ce qu'on a appelé ici les technosciences, ou l'impératif économique, remplace finalement l'impératif moral, mais où, eh bien, il y a une espèce de croyance dans l'efficacité complète, si vous voulez, de cette technoscience. C'est-à-dire que les technosciences, eh bien, auront réponse finalement à tout. Et que l'avenir de l'homme, finalement, ne pose pas de problème. Tôt ou tard, toutes les aspirations de l'homme trouveront leur solution dans le développement, non pas des sciences, mais des techniques qui sont rendues possibles par le développement scientifique. Mais ce n'est pas la science, mais la technoscience. Et la distinction entre les deux, il est capital de la faire. Distinction que, bien souvent, eh bien, au contraire, tout contribue à nous masquer. Et la technoscience se présente toujours, non pas comme telle, mais comme étant la science. Bien, alors ce schéma-là, donc c'était un peu ça, je résume rapidement ce qu'on a vu à la lettre. Ce schéma-là, on va le transformer un petit peu pour lui donner celui-ci. Attendez, ce que j'arrive à faire. Voilà. Alors on retrouve les trois mêmes éléments. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une identité entre les trois pôles du schéma précédent et les trois pôles d'ici. Mais simplement, c'est une correspondance. Et puis, comme ça nous intéresse, eh bien, il y a le problème de l'école qui est au milieu. Qui est au milieu avec deux points d'interrogation. Parce que, et ça c'est Didier qui le développera tout à l'heure, l'école finalement, elle relève de l'intérêt général ou elle relève de la vie privée et de ce qui est marqué là-bas, les intérêts privés. Voilà, ce sera la question à laquelle Didier essaiera de répondre. Enfin, du moins, il est d'accord. Donc on en revient là. Notre vie privée, domaine des croyances. Mais on vit en société. Et donc il y a bien l'espace public. L'espace public, avec ce qui correspond à l'espace public, l'intérêt général. Comment définir l'intérêt général? Ça n'est plus, comme auparavant, le domaine des croyances qui définit l'intérêt général. Auparavant, ce qui faisait qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre l'espace privé et l'espace public, les croyances qui étaient au sein d'une société monolithique définissent à la fois ce à quoi vous vous référiez dans votre vie privée et ce à quoi l'organisation de la société se référait pour se mettre en place. Mais, compte tenu de tout ce qu'on a pu voir sur les difficultés, quand le monde se complexifie, que les croyances deviennent multiples, eh bien, cet intérêt général donc n'est plus défini par les croyances. Mais il est défini par qui? Qui va définir ce qu'est l'intérêt général? Et c'est là qu'il faut un espace public où peut-être, alors c'est là, les termes ne sont pas équivalents. À l'intérieur de cet espace public, est-ce qu'on découvre l'intérêt général Est-ce qu'on le construit? Est-ce qu'on le définit? Et qui le construit? Qui le découvre? Qui le définit? Alors vous avez, entre parenthèses, on a mis l'État. Parce que tout ce qui se rattache à ça, bien évidemment, va concerner le problème du rôle de l'État. Et on va voir qu'on touche là des problèmes que l'actualité, bien évidemment, actuellement, met en avant. Que fait l'État? Est-ce que c'est l'État? Mais l'État, c'est qui? Est-ce que c'est l'État qui définit l'intérêt général? Est-ce que l'État a pour fonction de servir l'intérêt général? Et comment l'État peut-il définir cet intérêt général? Comment peut émerger, sortir, si vous voulez, cette caractéristique de l'intérêt général? Est-ce que ce sont les experts qui définissent? Alors on a exclu que ce soit les religions. Ce n'est plus les religions. Mais qui le fait? Qui va définir ce qu'il convient d'adopter comme loi? Alors, eh bien, nos démocraties disent que c'est la voix du peuple. La voix du peuple. Et l'intérêt général devient l'intérêt du plus grand nombre. Mais l'intérêt général s'identifie-t-il réellement à l'intérêt du plus grand nombre? Cela supposerait, pour que ce soit vrai, une condition, c'est que celui qui vote, vote réellement, un, en connaissance de cause, dispose des moyens scientifiques de connaissance, des moyens psychologiques de maturité caractérielle, pour pouvoir être ce que nos révolutionnaires espéraient construire de véritables citoyens. Donc, pour que le système fonctionne, eh bien, il faut des citoyens. Et des citoyens, donc des gens formés. Et qui va former ces citoyens? C'est là où le problème de l'école se pose. Il faut, et le texte que vous avez, c'est quoi un citoyen? C'est quelqu'un qui sait, qui connaît les lois, ou c'est quelqu'un qui est capable de formuler et de produire des lois? C'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui est capable de connaître. Et ça n'est pas la même chose. Et ça n'est pas la même chose. Le texte que vous avez derrière, vous tirez un petit bouquin sur la laïcité, je l'ai rabattu mon. A dit que cette différence, c'est que la formation du citoyen, bon, elle renvoie là. Mais faute d'avoir des citoyens, donc des gens formés à connaître et formés à savoir, eh bien, tout le système de production de l'intérêt général, on peut être dubitatif quant à l'identité intérêt général est là l'expression du plus grand nombre. Alors, le problème, c'est que cet intérêt général, compte tenu de cette difficulté à le définir, eh bien, nos idéologues, Locke, Smith, Hobbes, Rousseau, ou pas, tous ces théoriciens qui vont alimenter notre révolution française, si vous voulez, Descartes, à un autre niveau, eh bien, vont, eux, développer l'idée suivante. C'est que l'intérêt général, non, si on ne veut pas aboutir à une dictature, ou finalement l'État, sous une forme ou sous une autre, derrière l'apparence ou l'illusion démocratique, en fait définie pour la population de sa société, l'intérêt général. Donc il faut enlever à l'État, ce rôle. L'État n'a pas pour rôle de définir l'intérêt général. Si on confie à l'État le rôle de définir l'intérêt général, tôt ou tard, on arrive à des monstruosités. Alors, d'où va sortir cet intérêt général? Eh bien, il sort des intérêts privés. Et là, on a mis les intérêts privés au niveau des croyances. Pourquoi? Eh bien, parce que ce dont on va parler maintenant repose sur deux principes. Mais deux principes qui n'ont en tant que tels aucune valeur scientifique. Ce sont des principes, ce sont des postulats. On parle de cette idée-là, mais il n'est pas démontré qu'elle est juste. Alors le premier principe, c'est que le but de l'homme, déjà de toute façon, le but de l'homme, c'est de courir après le progrès. Et le but de l'homme, c'est de développer son emprise sur la nature. C'est Descartes. L'homme doit devenir maître et possesseur de la nature. C'est le but assigné aux technosciences de tout à l'heure. Donc on est bien là en correspondance. Mais c'est la Bible. Dans la Genèse, Dieu dit « Croissez à l'homme, croissez et multipliez, dominez sur la terre et les animaux. » Donc, la révolution copernicienne, qui consiste à dire que la terre n'est plus le centre du monde, ne va pas jusqu'à l'homme. Darwin n'a pas encore développé cette théorie que l'homme n'est qu'un élément d'évolution. Pour tous ces gens-là, la terre est faite pour l'homme. Le but de la terre, c'est de servir l'homme. Le but de l'homme, c'est d'être le maître et le possesseur de la nature. Vous retrouvez là, si vous voulez, un point de convergence avec ce qui est peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas trop leur thèse, mais ce qui pourrait être, éventuellement sous-jacent à toutes les thèses écologistes actuelles, si vous voulez, où ce mythe, cette croyance que la Terre est faite pour l'homme, eh bien, aboutit peut-être au fait, eh bien, que la Terre, l'homme est en train de la détruire. Et que la Terre n'est peut-être pas plus faite pour l'homme que la Terre est au centre de l'univers. L'homme vit sur la Terre, mais la Terre n'a pas été faite pour lui. Il lui faut tirer de la Terre ce dont il a besoin. Mais de quoi a-t-il besoin? Qui définit les besoins de l'homme? Et on va revoir ça avec le deuxième présupposé, alors là qui est plus exprimé par nos idéologues dont on va parler tout à l'heure, eh bien c'est que le meilleur moyen d'aboutir à l'intérêt général, c'est de laisser les intérêts particuliers s'exprimer librement. Et que si je laisse les intérêts particuliers s'exprimer le plus librement possible, la main invisible fera que l'intérêt général en découlera. On retrouve là le présupposé du libéralisme économique et du libéralisme politique tel qu'il a pu se développer et qu'il a pu se développer depuis en gros la Révolution française avec des hauts et des bas et qu'il a pu ressurgir il y a une cinquantaine d'années avec les problèmes auxquels il se trouve confronté de nos jours. Dans ce cas-là, l'État, le rôle de l'État n'est pas de définir l'intérêt général. Le rôle de l'État est de permettre, non pas comme tout à l'heure, de permettre l'existence d'un espace public où une véritable confrontation démocratique puisse construire un intérêt général. Mais le rôle de l'État est de faire en sorte que le jeu, le libre jeu de la poursuite des intérêts individuels puisse se faire le plus librement possible. Et ce rôle de l'État est donc de déréguler au maximum tout ce qui empêche l'expression libre des intérêts privés. Donc ça, c'est le deuxième postulat. Ce postulat repose sur un postulat antérieur, c'est que mes intérêts privés sont des intérêts naturels qui ne doivent rien en tant que tel à la société dans laquelle je me trouve. Ce qui veut dire que mes besoins sont toujours des besoins justifiés et que la poursuite de mes besoins ne pose en tant que tel aucun problème. Si j'ai besoin, je dois pouvoir satisfaire mes besoins. Et alors là, on se retrouve avec une autre contradiction, si vous voulez, c'est que dans cette perspective-là, les sociétés dites primitives sont des sociétés pénuries, puisqu'elles n'ont pas beaucoup de besoins. Que nous sommes des sociétés d'abondance, parce que nous avons beaucoup de besoins. Et alors, je crois que vous en avez déjà parlé une fois, une autre thèse dit, mais c'est l'inverse. C'est nous qui sommes dans une société pénurie, parce que nous avons toujours des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire. Et que les sociétés primitives, elles, étaient des sociétés d'abondance. Parce que fondamentalement, eh bien, leurs besoins étaient satisfaits. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette contradiction? Mais c'est que la notion de besoin n'est pas une donnée naturelle. Mes besoins ne sont pas définis naturellement. Mes besoins dépendent du système global dans lequel je me retrouve. Et en particulier, eh bien, du système de représentation de ce dont j'ai besoin. Et je me souviens, je crois que vous l'avez dit, l'an dernier, en passant dans la FNAC, j'avais vu une publicité. Réduirez-vous à nos offres. Voilà. On ne vous demande pas si vous avez besoin, on vous demande si vous êtes capable de résister à nos offres. Donc, mais voilà. Donc, on crée le besoin. Et pourquoi crée-t-on le besoin? Parce que le besoin engendre la satisfaction du besoin qui engendre un besoin, et on est là, dans ce qu'on a mis en dessous, l'impératif marchand. Mais l'impératif marchand, c'est un domaine de croyance. On n'est pas dans la science, on n'est pas dans la connaissance. On est sous deux présupposés, que la Terre est faite pour l'homme, et que le libre fonctionnement des intérêts privés amène inévitablement la définition de l'intérêt général. Et que ça, ça pose des problèmes. Et alors le problème actuellement, ben, on voit bien qu'actuellement, ce mode de fonctionnement bien, pose des problèmes. Il pose précisément le rôle de l'État. Et aussi, eh bien, le rôle de l'école. C'est que l'école est-il liée à la partie du bas ou est-il liée à la partie du haut? Est-ce que c'est clair?
Est-ce que je peux simplement ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit?
Tu veux rajouter quelque chose?
Juste un mot sur les interactions en fait entre ces différents pôles qui sont intéressantes. C'est-à-dire que si on a mis... ce qu'on a trouvé, c'est que la dernière fois, il y avait peut-être une conclusion possible. On utilise le même mot pour des choses très différentes. Vie privée, intérêt privé. L'intérêt privé d'une entreprise n'a rien à voir avec vie privée au sens de l'intimité, de la famille, etc. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu cadrer les choses, parce qu'on a parlé d'ordinateur. On le voit bien en ce moment, il y a une loi qui est en train d'être discutée sur les téléchargements. On voit que là, il y a une contradiction entre le jeu des intérêts privés. Il n'est pas de l'intérêt du jeu des intérêts privés que l'on ait au niveau de notre vie privée ce droit-là. Ce droit de croyer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des interactions entre le jeu des intérêts privés qui relèvent des entreprises, en fait, et qui relèvent de l'impératif marchand, et le jeu des vies privées qui relève de la conviction, qui relève de ce qu'on a envie de vivre ou pas, de notre liberté, si vous voulez, et qui, du coup, peuvent être en contradiction. C'est-à-dire que, bien sûr que nous, on peut avoir l'impression que c'est l'État qui nous limite. Et on le voit bien, et c'est bien le premier moment. C'est-à-dire, c'est bien une limite, c'est de dire, attention, la croyance, c'est une affaire de vie privée. L'État n'a pas à se substituer à la croyance, ou la croyance n'a pas à prendre en charge le rôle de l'État. Très bien. Mais une fois qu'on a le pôle privé au nom de la vie privée, de la conviction en place, mise en route, donc jusqu'au XVIIIe siècle, après va apparaître un autre problème, c'est-à-dire que la vie privée va être non seulement limitée par l'État, tout ce qui dans la vie privée relève en fait de l'intérêt général ou de l'intérêt de l'État. L'État peut intervenir, il y a des tas de choses, c'est les lois, il y a des tas de choses que vous n'avez pas le droit de faire, même si vous considérez que ça relève de la vie privée. Mais ce n'est pas la seule limite, une grande limite, et là on voit bien ce que dit Bernard, vient aussi des intérêts privés. C'est-à-dire que tout ce qui dans la vie privée, transgresse l'impératif marchand, d'une manière ou d'une autre, et bien vous allez trouver les intérêts privés qui vont solliciter l'État pour réguler la chose. Et là, on retrouve ce que dit Bernard, au fond, comme si l'État, ce qu'on appelle l'intérêt général, était le résultat, in fine, hein, du libre jeu des intérêts particuliers, comme si, au fond, l'intérêt général n'était pas une idée qu'on pourrait se donner, puis un but qu'on pourrait se donner, mais le produit même du monde économique, marchand, technoscientifique. Vous voyez l'idée? Donc c'est important parce que la dernière fois, on a vu dans le débat qu'un coup on était sur le registre de la vie privée, ensuite sur le registre de l'intérêt privé, mais en fait on confondait peut-être les deux. C'est-à-dire qu'il faut les distinguer, ce n'est pas la même chose. La plupart du temps, la vie privée doit être en contradiction avec les intérêts d'une entreprise, etc.
Oui, si bien que ce qu'on a pu indiquer autrefois, qu'actuellement, cette distinction entre l'espace privé et l'espace public, on pouvait penser qu'il était en train de se réduire, mais effectivement, on retrouve, et là on a plusieurs signes, si vous voulez, qu'on peut rapidement analyser, qu'on peut rapidement en décrire. Un peu comme auparavant, entre la vie chez soi, si vous voulez, et la vie dehors, c'était pareil, mais de la même manière, actuellement, chez vous, vous êtes dehors, chez vous, vous êtes en plein public. Alors on retrouve ça dans les émissions, les télé, si vous voulez, où l'intime, la vie même intime, elle est affichée sur les postes de télévision, mais d'une autre manière, les nécessités économiques font qu'il faut être mobile. Donc vous n'êtes plus attaché, vous ne devez plus être attaché à un territoire, même à une famille ou à un couple. Les nécessités du travail font que vous devez pouvoir aller n'importe où. Votre vie privée est totalement submergée par les nécessités du pôle de ce pôle-là. Alors, auparavant, il était déterminé par les croyances, maintenant, il est déterminé par là. Mais on retrouve la même identité de fonctionnement, et on n'a plus cette contradiction entre l'espace privé et un espace public. Un espace comme étant un espace où on construit un intérêt général. Voilà. La question.
On me dit, est-ce qu'il n'y a pas une phrase qui résume tout ça, c'est-à-dire le fait que les intellectuels cherchent à avoir une entente sur la vie privée, alors que voilà. Relancer la question. C'est-à-dire que tout ce qui. C'est vrai qu'il y a un discours de plus en plus, c'est pas la responsabilisation, c'est plutôt culpabilisation. C'est-à-dire le fait, qu'est-ce que vous faites pour que l'économie. Qu'est-ce que vous faites pour participer à la croyance chez vous, voilà. Donc il y a de plus en plus cette pression, évidemment. Donc tout ce que vous faites dans la vie privée qui est en contradiction avec ça, c'est pas dit, mais. On a l'impression que on sert pas l'intérêt général. Alors c'est pas l'intérêt général au sens où il serait défini au-delà de la vie privée et de l'intérêt privé. Là, l'intérêt général, il est employé pour dire, en fait, c'est ce qui rassemble les intérêts privés. Mais alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est abstrait.
La formation par l'école,
le problème de l'école, enfin, on va le voir, mais le problème de l'école, c'est qu'actuellement tout bouge là-dedans. Parce que ce qu'on a pu là rapidement développer, il n'y a pas besoin de. Enfin, si vous lisez la presse, si vous écoutez la radio, vous voyez bien que là, tous les problèmes qu'on a fait là, qui effleurés, sont des problèmes. Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle de l'État actuellement? Est-ce que l'État, quel est le rôle de l'État par rapport précisément à l'intérêt général? Quel est l'intérêt des élections actuellement? Quel est l'intérêt, et par rapport à ça, quel est le rôle de la formation? Quel est le rôle de la formation? Et l'école doit-elle former des citoyens, comme les révolutionnaires disaient, ou doit-elle former une main-d'œuvre dont on a besoin? Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Comment ça se goupille tout ça concrètement dans les rapports éducatifs? C'est tout ça qui est important. Et indépendamment du rôle de l'État, quel est le rapport entre l'État, les membres de l'État, et puis là-haut, les intérêts privés? Au niveau des intérêts privés, est-ce que les intérêts sont tous aussi privés les uns que les autres? Est-ce qu'au niveau des intérêts privés, le libre jeu des intérêts privés, est-ce que cela... Enfin, c'est pour ça qu'on l'a mis là dans le domaine de la croyance, si vous voulez. Le libre jeu des intérêts privés, est-ce que c'est quelque chose qui signifie vraiment quelque chose? Je peux leur parler. Mais est-ce que si je veux penser le libre jeu des intérêts privés, comment le jeu des intérêts privés de personnes qui ne sont pas au même niveau peut-il être libre? Bon, c'est la critique traditionnelle de la liberté du renard dans le poulailler. Le renard est libre, les poules aussi. Laissons les renards dans le poulailler. Donc on est là derrière des mots qui se présentent comme signifiant quelque chose. En fait, on est là face à une réalité que les mots camouflent plus qu'ils ne la traduisent.
Alors d'ailleurs, pour finir, avant de passer à la question de l'école, il y a une expression qui est apparue, qui est beaucoup plus récente qu'intérêt général, mais qui tend à la remplacer, c'est l'expression service public. Et en fait, quand on y regarde de près historiquement, l'expression service public, il y a eu en 2003, je crois, c'est l'Organisation mondiale du commerce, il y a eu une grosse discussion à ce niveau-là. C'est quoi le service public? En quoi le service public serait-il à l'abri du libre jeu des intérêts? Donc c'est la poste, c'est l'école, c'est les hôpitaux, etc. Et depuis 2003, tout le monde le sent, tout le monde le sait, c'est écrit, et c'est un projet, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire que du coup, on voit bien que, puisque si l'intérêt général, en fin de compte, c'est pas une idée, c'est pas un idéal, mais que c'est un service... Si c'est un service, pourquoi ce serait à l'État de le rendre? La question s'est posée. Maintenant, on n'en est même plus à cette question. On en est, qu'est-ce qui, dans le service public, peut devenir privé? Vous avez un hôpital aujourd'hui, vous avez ce qui reste du service public, mais il y a beaucoup de services qui dépendent, ou dont dépend l'hôpital, qui deviennent privés, de plus en plus. Pour l'école, ça commence à apparaître. Il y a plus de résistance au niveau de l'école. On verra pourquoi. Mais ça commence à apparaître. L'idée, c'est pourquoi croyez-vous que les universités sont bloquées aujourd'hui? C'est parce que de plus en plus, on veut mettre à l'intérieur même des universités l'idée selon laquelle il est de l'intérêt des universités de travailler avec les intérêts privés. Pour la recherche, etc. On résiste évidemment, mais ça ne va pas être facile. Pour l'hôpital, c'est fini, la résistance à les tombé. Je veux dire, la plupart des services aujourd'hui à l'hôpital, sauf les derniers, mais encore des discussions. Donc de plus en plus, mais c'est un projet qui est en fin de compte explicite. C'est-à-dire que c'est l'Organisation mondiale du commerce qui a listé tout ce qui, dans les services publics, pouvait être privatisé. Et donc, le but du jeu étant de privatiser le plus possible ce qui relève du service public, le plus possible, jusqu'à ce qu'on trouve la limite, évidemment. Ce qui sera inacceptable, on ne laissera tomber. Mais on y va. On y va. Là, c'est là où on voit bien, avant de parler même de l'école, et l'école, dans ce cas-là, bah, elle n'est plus tout à fait le centre, elle devient un service public parmi d'autres, l'éducation. Et la question se pose de plus en plus, et j'ai des collègues d'ailleurs qui se la posent eux-mêmes, sincèrement, qui se remettent en cause là-dessus, dans quelle mesure, certes peut-être pas tous, mais beaucoup de services qui appartiennent au cadre même de l'école ne pourraient pas être privatisés. Déjà poser la question, c'est déjà mettre les deux moteurs. Vous voyez voilà.
Si on veut, là, ce que j'ai dit rapidement là, tout à l'heure, à ce niveau-là, la contradiction, enfin, le choix, c'est où l'État, et c'est là, c'est les débats qui ont lieu actuellement hein, entre les différentes protagonistes, mais où le rôle de l'État, c'est de permettre l'existence d'un espace public, de permettre son fonctionnement d'un espace public. Donc de permettre qu'existe réellement un espace public où les citoyens puissent élaborer, construire l'intérêt général. Il ne s'agit pas de le définir, il ne s'agit pas de le découvrir, il s'agit de le construire. Comme on construit des vérités, on ne les découvre pas, on les construit. Donc avec tout ce que ça implique, où c'est ça le rôle de l'État, où le rôle de l'État, c'est, partant du principe que l'intérêt général découlera inévitablement de la poursuite individuelle des intérêts privés, et bien de faire en sorte que ce jeu-là se fasse le plus librement possible. Et dans ce cas-là, l'État, le rôle de l'État, c'est de permettre le fonctionnement des intérêts privés. L'État est au service des intérêts privés, en partant du principe que c'est comme ça que l'intérêt général va en découler. Et donc avec cette expression qui a ressurgi depuis quelque temps, qui est classique, mais qui a ressurgi dans les commentaires de la presse, la fameuse main invisible. Il y a une main invisible, c'est Adam Smith, je crois, qui dit ça. Que si une main invisible, ça ressemble beaucoup à la providence. Hein. Bon, donc une main invisible qui fera que si chacun suit ses intérêts, le jeu des intérêts privés fera que le tout sera bien organisé.
Si vous voulez, l'idée de base, c'est que, alors chez ces penseurs-là, Ricardo aussi qui en parle, l'idée de base, c'est l'idée que, de toute façon, il n'est jamais de l'intérêt d'un particulier que, comment dire, de se retrouver en contradiction avec les autres intérêts à tel point qu'il ne puisse plus développer son propre intérêt. Donc, pour développer son intérêt particulier, il est obligé de tenir compte des autres. S'il ne le fait pas, eh bien, il va se retrouver dans des contradictions qui font qu'il ne pourra pas se développer. Donc, comme si, et c'est ça la main invisible, c'est l'idée que, de toute façon, ceux qui entreprennent sont pas bêtes. S'ils entreprennent, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent réussir, et ils savent que pour réussir, c'est pas leur intérêt de déranger tout le monde. C'est plutôt leur intérêt d'essayer d'apporter quelque chose. Ce qu'on a appelé pendant très longtemps l'utilitarisme, c'est l'idée que, au fond, si je veux vraiment vivre, alors c'est que le terme est égoïste, évidemment, qui est employé, c'est des intérêts égoïstes. Si je suis vraiment égoïste, et que donc je veux vraiment les choses pour moi, eh bien évidemment, c'est pas mon intérêt de me trouver en conflit permanent avec les autres. Et pour pas me trouver en conflit permanent avec les autres, eh bien j'en tiens compte. J'essaie de leur apporter quelque chose. Les rassurer aussi. Donc, automatiquement, on arrive à l'intérêt général. Par le libre jeu des intérêts égoïstes. Pardon ? Oui, mais si on s'en fiche, eh bien, en fin de compte, l'idée, c'est que, de toute façon, si on s'en fiche, mécaniquement, Les autres vont nous écraser. C'est-à-dire qu'ils ne nous laisseront pas faire. Donc ce n'est pas notre intérêt de s'en fiche. Ce n'est pas notre intérêt égoïste de s'en fiche. Ça fait partie. C'est juste, si vous voulez, je veux le bonheur des mondes, je veux le bonheur du monde, parce que je suis égoïste, parce que je ne pense qu'à moi.
C'est une théorie.
Oui. C'est une croyance. C'est une croyance. On l'a mis là. Il faut y croire. Alors, le résultat, on l'a pas, promis.
Pour être complet, il faudrait quand même rajouter un troisième rôle possible de l'État, si vous voulez, mais qui de nos jours a mauvaise presse, qui est que l'État n'est pas au service des intérêts privés, ne déclare pas, enfin, ne permet pas le libre jeu des intérêts privés. L'État n'a pas non plus pour rôle de permettre l'existence et le fonctionnement d'un espace public. L'État définit l'intérêt général. L'État est le lieu où se définit l'intérêt général. Alors, c'est cette conception de l'État, si vous voulez, qui inévitablement donne lieu à les diverses formes de dictature. Soit elle s'inspire d'une idéologie qui finalement est d'inspiration religieuse, même si elle se réclame de théories dites matérialistes, ou alors, eh bien, elle est purement et simplement l'expression, non pas du libre jeu des intérêts privés, mais l'expression d'un intérêt privé bien particulier, et qui utilise cette fois celle-là pour s'imposer par rapport aux autres jeux d'intérêt privé. Et bon, c'est finalement le phénomène des dictatures, et quel que soit leur nom, et ce contre quoi, depuis la Révolution française, au nom des droits de l'homme, eh bien, on se bat. Voilà. Bien.
Alors l'école dans tout ça, là on l'a mis au centre, l'école. Pourquoi? Parce que, alors Bernard n'a pas employé le terme, je vais l'employer maintenant. En fait, tout ce qu'on décrit là, si on regarde historiquement, c'est ce qu'on appelle le processus de laïcisation. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit bien de la mise en place, ce qu'on appelle par l'intérêt général, confondu ou non avec l'État, la mise en place d'un espace public qui définit un espace de vie privée, sachant que l'institution, au bout du compte, l'institution ne relèvera d'aucune croyance particulière. C'est ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité qui, déjà au Moyen-Âge, le laïc désignait précisément déjà celui qui pouvait éventuellement remplir une fonction cléricale, mais qui n'était pas lui-même religieux. Alors, simplement au Moyen-Âge, comme la société était de toute façon d'audience religieuse, évidemment, on n'avait pas un espace public laïc. Mais on avait des laïcs. Alors pourquoi l'école au centre? Parce que l'école, on n'a pas attendu la République pour qu'il y ait l'école. Évidemment, l'école a toujours été là. Scolé, c'est le lieu depuis l'Antiquité, c'est le lieu, étymologiquement, si on prend le terme scolé, c'est le lieu où ceux qui n'ont rien à faire d'autre peuvent penser. C'est ça. L'étymologie, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien à faire de leur vie, de leur peau, qui ne savent pas quoi faire, qui s'ennuient, on peut leur donner un lieu pour penser. Scolé. L'école. Donc, c'est un lieu déjà un peu à part. Alors, il n'a jamais été pour autant au centre, comme il l'est aujourd'hui. Alors, on va voir pourquoi. Jamais au centre, comme il n'a jamais joué, la scolaire n'a jamais joué le rôle de pilier comme il a pu jouer, comme il peut le jouer maintenant, dans notre société. Pourquoi? Parce que, en fait, dès lors qu'il y a eu cette séparation de l'État et du religieux, et donc la création d'un espace laïque, Dès lors qu'il y a eu cette séparation, comme on ne pouvait plus se référer à une croyance, qu'on ne peut plus se référer à une croyance pour tenir les individus, ce que déjà on appelait à l'époque les citoyens, pas dans le sens où nous on l'emploie, mais on employait déjà le terme, les citoyens, pour tenir les citoyens ensemble, dans ce qu'on appelle un État, une institution, pour que les citoyens obéissent, si vous voulez, aux institutions, comme on ne pouvait plus passer par la croyance, la seule solution qui a été trouvée dès la Révolution française, on le voit bien avec les premiers révolutionnaires, la seule solution, c'est de mettre en place une institution qui était déjà là, mais qui était là de manière peut-être pas optionnelle, mais en tout cas qui était là pour servir certains, qui avaient un certain rôle dans la société. Alors, à la fin du Moyen-Âge, évidemment, c'est les cléricaux, ce qu'on appelait l'école, la scolastique à ce moment-là. Et donc, sur ce modèle-là, eh bien, de le mettre au service de la République, au service de la laïcité. Et de rendre donc, et il y a fallu quand même, ça a commencé à la Révolution, l'idée est née à la Révolution française, mais elle n'est mise en place par la loi qu'en 1882, fin 19e. L'école publique obligatoire, Jules Ferry, hein, l'école publique obligatoire, le décret de 1982, il n'est mis en place qu'en 1983. On commence à voir apparaître les premières écoles telles que nous on les connaît, donc c'est très récent. Il y avait des écoles. Les écoles, c'est les prêtres qui s'en occupaient. On faisait l'école. Il y avait autre chose que les écoles. Évidemment, il y avait les universités, il y avait les séminaires, il y avait d'autres choses qu'on va retrouver après, sous d'autres formes, qui étaient déjà là, les séminaires, mais qui étaient là, simplement, non pas pour servir, pour faire que les individus ou les citoyens obéissent, on n'en avait pas besoin, puisque la croyance, l'Église était là. Mais par contre, pour servir, pour former ceux qui étaient à l'intérieur de ces croyances, évidemment, les tenants, la hiérarchie, etc. C'est-à-dire que c'était une véritable usine, entre guillemets, à fabriquer eh bien, des intellectuels, du clergé, etc. C'est ça qui est abandonné. C'est ça qu'on appelle l'école laïque. L'école laïque, c'est l'idée que ce qui n'était qu'au service d'une caste avant va devenir au service de tous les individus de la société. Parce que c'est le seul, et ça devient un pilier, ça devient le pilier. C'est-à-dire que c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour que les individus, en partant de leur enfance jusqu'à l'âge adulte, prennent l'habitude d'obéir aux institutions sans qu'on ait à faire appel à une croyance, puisque la croyance était mise en dehors de l'espace public. Vous voyez ? Sinon, si on est obligé de faire appel à une croyance, c'est là où est né l'instituteur. C'est là où l'instituteur remplace le curé, si vous voulez. Si on était obligé de faire appel à une croyance, évidemment, on avait un retour à l'idée qu'il y a parmi les croyances dans la vie privée, il y en a une qui joue le rôle d'intérêt général. L'école, évidemment, va jouer un rôle colossal dans cette histoire, à partir de la fin du 19e jusqu'à maintenant. Alors on dit, c'est une histoire récente, et on dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, en tout cas moi, étant dans le milieu, j'entends chaque année, tout le temps, tous les jours, il y en a un qui m'en parle, l'école est en crise. L'école est en crise. Ceux qui ne le savent pas, je vous dis, l'école est en crise. L'école est en crise. Bon, crise. L'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a un siècle, un peu plus d'un siècle. C'est une crise, peut-être une crise d'adolescence, il faut voir. Elle est en crise. Alors comment interpréter cette crise ? Parce que quand on dit qu'elle est en crise, on laisse entendre que c'était mieux avant que maintenant. Tu vois, ça se termine comme ça la discussion. Ah mais avant, tout allait bien, quand tu as commencé à enseigner, tout allait bien, dans les classes, ça ne se passait pas comme ça, on n'avait pas ces problèmes-là, etc. C'est l'impression que c'était mieux avant. Comme s'il y avait une école de ce type-là, il n'y en a pas eu avant. On commence, on se met en route. Va se poser le problème qui n'avait aucun sens bien avant, évidemment, tout simplement parce qu'on avait le but. L'école, on avait sa finalité. Mais là, pose le problème, il faut définir la finalité de l'école. Si l'école n'est pas là pour régénérer une élite, ou une caste, ou une religion en particulier, elle est là pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va y mettre dans l'école ? Qui va faire l'école ? Alors ça, c'est les premiers problèmes qui se sont posés. Et Jules Ferry a trouvé quelques solutions. Mais alors, je ne sais pas si parmi vous, ça dépend de votre âge. J'ai discuté avec Bernard tout à l'heure, il m'a dit que oui, à l'époque, oui, était à l'école primaire, il y avait encore, donc on voit bien, parce que l'école va changer vraiment après la Seconde Guerre mondiale. Parce que avant, de Jules Ferry, fin 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il s'était mis en place, c'était Jules Ferry qui l'avait défini, un système, qui marchait très bien d'ailleurs, un système qui avait divisé la société en trois groupes. C'est-à-dire que l'intérêt général, c'était trois groupes. Il y avait les masses. C'est pour ça que ça a donné le nom de l'école primaire. L'école primaire, avec une sanction qui était le certificat d'études, que certains ont peut-être connu. Le certificat d'études. La plupart du temps, sur 100, il y en a deux qui continuaient, les autres arrêtaient. Le certificat d'études, avec ce rôle de régulation, c'était très bien fait, parce qu'il y avait un rôle de régulation. C'est-à-dire qu'on avait prévu que ce qu'on appelait les instituteurs. D'ailleurs, le livre du début du siècle, alors si ça vous intéresse, je peux vous donner une référence qui est passionnante. Un des premiers philosophes, c'est Durkheim, Émile Durkheim, qui est un sociologue donc contemporain. C'est la création de l'école publique, obligatoire. Et Durkheim a écrit une petite œuvre qui s'appelle L'histoire de l'école en France, du Moyen-Âge jusqu'à lui. Et puis, c'est passionnant parce qu'on voit comment ça fonctionnait à l'époque. Durkheim. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? En fait, l'école va être divisée en trois. Ça reste vrai. Et c'est là, ça va être là ce qu'on appelle la crise, justement, parce que c'est vrai et faux aujourd'hui. C'est ça qui a changé. Ça reste vrai, c'est-à-dire dans le sens, on garde les mêmes cycles. Le primaire, le collège, le secondaire, l'université. Dans l'esprit de Jules Ferry, c'était le primaire, c'est ce qu'on va réserver aux citoyens. Le primaire, son principal rôle, c'est de former le citoyen, et c'est écrit en toutes lettres, faire en sorte que les individus obéissent aux lois. C'est ça, citoyen. Faire en sorte que lorsqu'il y a une guerre, je vous rappelle qu'on est en 1880, tout de suite après la guerre de 1870, la défaite avec l'Allemagne, c'est un traumatisme en France, et donc l'idée c'était faire en sorte que si par contre on doit refaire la guerre avec les Allemands, que tout le monde soit prêt. Il y avait cette idée-là, l'idée obéir aux lois, l'idée de nation, on va remplacer l'amour de Dieu par l'amour de la nation. Le livre des instituteurs avait un nom, un titre, allez voir, c'est réel, ça s'appelait la foi laïque. La foi laïque, c'était le manuel des primaires, début du siècle. La foi laïque, les instituteurs, il y avait ce système de régulation, ils passaient ce certificat d'études, et les meilleurs d'entre eux, ceux qui ne choisissaient pas le collège, pouvaient aller à ce qu'on appelait l'école normale à l'époque, enfin, celle d'aujourd'hui, l'école normale à l'époque, qui est encore, que les UFM ont remplacé l'école normale, mais c'est très récemment, hein, dans les années 90, donc c'est très récent cette révolution. L'école normale où des instituteurs à la retraite formaient les nouveaux instituteurs. Autrement dit, vous aviez des gens instituteurs qui n'étaient jamais sortis du système primaire, c'était pour la masse. Avec l'idée qu'un individu qui sait compter et lire, a priori, s'il part en guerre, on pourra lui demander de ranger les cartouches, etc. C'était ça, l'idée au départ. Puisqu'on avait perdu la guerre de 1870, c'est peut-être que nos soldats n'étaient pas assez intelligents. Les rendre un peu plus intelligents, si vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, ça va correspondre à un classement social. C'est-à-dire que le primaire va correspondre à la grande masse, le secondaire va être réservé à la bourgeoisie, aux notables, et puis l'université, on va garder le même rôle, la formation des élites, les hommes politiques, etc. La formation des élites, les chercheurs, etc., la connaissance scientifique, etc. L'État, la nation, a besoin d'élites, a besoin de gens qui fassent valoir les compétences, l'intelligence de la nation parmi les autres, etc. Mais on voit bien que c'est un système où il y a une masse au départ et qu'il y en a très peu à l'arrivée. Évidemment, très peu à l'arrivée. La fameuse crise de l'école dont on parle, et quand on dit, oui, c'était mieux avant, je demande à voir. La fameuse crise de l'école dont on parle, c'est le moment où il va y avoir rupture avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va, c'est après la Seconde Guerre mondiale en fait, où de plus en plus est apparue l'idée qu'il pouvait avoir un intérêt à ce qu'on démocratise l'école. Alors, la démocratisation de l'école, c'était la grande révolution, c'est l'idée qu'on ouvre toutes les portes. On ouvre toutes les portes, c'est-à-dire que tous les sas entre le primaire, le secondaire et les universités, on les ouvre. On essaie de faire des programmes qui soient plus communs, donc il y a eu tout un travail là-dessus, évidemment, plus communs, et puis surtout, on essaie de définir le rôle du professeur. Il faut redéfinir le rôle. Le professeur n'est peut-être pas là que pour prêcher la bonne parole du laïc, de la laïcité. Donc c'est intéressant parce qu'on peut regarder, on peut se demander si ce qu'on appelle la crise de l'école aujourd'hui n'est pas un moment de dépassement du cadre qui l'a créé, la laïcité. On est peut-être dans un moment où on est en train de dépasser ce qu'on appelle la laïcité. C'est pas que l'école est au service de la laïcité, c'est que les problèmes qu'elle rencontre fait que est peut-être le symptôme d'un dépassement de la laïcité. On n'est plus dans la laïcité de la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui va se passer? On oublie ça. Ça veut dire que l'instituteur n'a plus le même rôle. Le fameux manuel, la foi laïque, n'a plus aucun sens. Ça veut dire qu'il faut qu'il prépare ses élèves au secondaire. Il faut qu'il prépare ses élèves au collège et au secondaire. Et même chose pour le collège et le secondaire. Il faut qu'il y ait une continuité entre le primaire et l'université. Donc, ce n'est plus du tout le même rôle. D'ailleurs, les instituteurs se sont battus pour ça, ils ont gagné, tant mieux pour eux. Ils ne s'appellent plus instituteurs, ils ne sont pas là pour jouer le rôle de l'institution, ce sont des professeurs des écoles. Professeurs des écoles, donc ils ne sont pas professeurs de philo comme moi ou professeurs de maths, ils sont professeurs des écoles. Leur compétence est de former les petits-enfants à devenir après mathématiques, etc. Et ils ont obtenu le statut et le salaire. Et le salaire, très bien, le salaire, simplement, juste le X, c'est qu'ils ont perdu les primes. Puisqu'il y avait des primes pour les instits. Vous savez, quand j'étais instit, comme c'était un peu... C'est le côté, ça je voulais dire, il y a un côté issu de la Révolution française, et puis de ce qui a précédé la Révolution française, l'idée, à l'intérieur de l'école, que quelque part, et c'est un résidu de ça en fait, quelque part, le boulot de prof, c'est pas un métier comme un autre. C'est un sacerdoce. C'est une mission, vous voyez. Il y a une mission qui reste à définir, pour qui, pourquoi, mais il y a une mission. Le professeur est un missionnaire. Et donc, les instits, par rapport aux professeurs des écoles, les instits avaient, puisqu'ils avaient cette mission, ils avaient donc un État prenant en charge leurs besoins, ils avaient des logements de fonction, tout ça, ils ont perdu. Alors, ils ont un salaire en plus, mais quand on fait le compte, au bout du compte, ils ont perdu, oui, sur le salaire. Bon, c'était juste une remarque en passant. Très bien, alors maintenant, les instituteurs ne sont plus instituteurs, ils sont professeurs des écoles, et ils aident les professeurs du secondaire, du collège, du secondaire, dont je fais partie moi-même, et des professeurs de l'université, eh bien, ils aident dans le processus de connaissance à faire en sorte que les élèves arrivent à un certain niveau, et le plus possible, cette fois-ci. On en est dans une démocratisation, simplement il y a un hic, c'est que cette démocratisation s'est fait à marche forcée, et que du coup, c'est là où peut-être que certains connaissent, c'est là où apparaissent les nouvelles pédagogies, les lieux, etc. Et que du coup, le problème c'est que ça se traduit par une massification, une démocratisation. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on a fait du résultat, c'est-à-dire que le but du jeu, est-ce que c'est 80% au bac avec le niveau du bac, ou 80% au bac? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si on est à 80% au bac, un plus, c'est une massification. On n'a pas la garantie qu'on a un niveau bac. Vous voyez? C'est pas le même travail. Face à ce problème-là, évidemment, il y a ce qu'on appelle les technicistes dans le milieu de la pédagogie. Les technicistes, ils sont apparus là, dans les années 70. Monsieur Mérieux, évidemment. Mérieux, parce que c'est lui qui a fait un peu la synthèse de tout ça, il était lui-même prof de philo, donc il avait une conception un peu, il avait l'impression de mieux connaître les concepts que les autres, donc il a fait un peu la synthèse, voilà. Mérieux, Et l'idée même, et c'est l'idée qu'il faut apporter des techniques, c'est pour ça qu'on les appelle des technicistes, il y aurait peut-être des techniques, ils croient avoir les techniques, il y aurait peut-être des techniques pour rendre la massification, pour transformer la massification en démocratisation. Il faut s'interroger sur le rapport entre l'élève et le prof, les trois acteurs, parents, élèves, prof. Et il faut s'interroger sur leur rapport, leurs interactions, et faire de ces interactions le point de départ de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est très loin là, maintenant, on est sorti totalement de l'époque où on a l'institut ou le maître. D'ailleurs, j'ai jamais vu un élève le dire maître, non. Monsieur Marc, on ne sait pas autre, on dit quoi, voilà, c'est un autre rapport. Donc il n'y a plus cette posture, si vous voulez. Il y en a qui se. Je pense à Tuchel Prot, par exemple, qui est vraiment. Alors lui, c'est un homme à abattre, c'est Mérieux. C'est-à-dire que lui, il est vraiment aux antipodes de ce que dit Mérieux. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont opposer à ça, donc à ce technicisme, de plus en plus, d'où est sorti ce qu'on appelle les UFM. S'il y a des techniques, on peut les apprendre. On va former les professeurs à ces techniques. Où on mélange philosophie, psychologie, sociologie, on mélange tout ça, on appelle ça de la pédagogie. Donc, du coup, ben, fait avec. Hein. Et en fait, vous avez des gens comme Michel Pot qui vont expliquer que le problème vient d'eux. C'est pas qu'ils apportent une solution, le problème vient d'eux, en fait. Il vient d'eux parce que le démocratisation des démocratie, si la démocratisation c'est obtenir un bon niveau au bac pour le maximum de gens, oui, mais si la démocratisation c'est mettre à égalité l'élève, le parent et le prof, mais que lui dit non, le prof est là, le parent est là-bas, et l'élève, il est là. L'élève n'a pas, il serait, je fais l'avocat du diable, il serait, voilà le point de vue de Philippe Prot, il serait aberrant qu'on arrive en cours, imaginez-moi, j'arrive en début d'année, je dis, voilà, vous allez choisir votre programme. Si vous voulez, on fait le cogito, je ne sais pas, je sais. C'est-à-dire que c'est comme si on demandait aux élèves de choisir quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore, puisqu'ils sont là pour l'apprendre. Donc, il y a. Alors, du coup, tout ça va créer des problèmes, évidemment, et ces problèmes-là, c'est ce qu'on définit par le terme crise. Mais il n'y a pas de crise. Il faut qu'il y ait une crise. Il n'aurait pas dû que ça aille bien, et qu'il y a une régression. Mais ça n'a jamais été bien. On a toujours été en crise. Pour une raison simple, pour la raison qu'a donné Bernard, c'est que dès lors qu'on a parlé de laïcité, séparation du privé et du public, dès lors qu'on a fait ça, on a posé un énorme point d'interrogation, et elle est là l'école. Si on fait de l'école le pilier de ça, et que ça n'est qu'un point d'interrogation, qu'on n'a pas de réponse, qu'on ne sait pas quoi y mettre, on peut imaginer que l'école est précisément le lieu où on ne sait pas quoi faire. Vous voyez ? Donc, pour finir sur... pour finir parce que... non, ça va. Non, mais comme je suis dedans, du coup, c'est un peu... Je parle en plus en connaissance de cause. Résultat de tout ça. Vous avez, en fait, dans la réflexion sur l'école, deux perspectives. Si on regarde... Alors, je vous renvoie à des... comme Prost, par exemple, deux perspectives. Vous avez la perspective qui issue de tout ce que je viens de dire, Jules Ferry, etc., où il reste une résistance, on essaie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mythologisation. C'est le terme employé, Buchmann, par exemple, pourquoi ce terme, la mythologisation. C'est-à-dire le fait qu'il y a peut-être un intérêt à ce que, malgré tout, l'école, justement, pour qu'il y ait obéissance, pour qu'il y ait respect, etc., il y a peut-être un intérêt que l'école soit le lieu où, justement, par une mystification du savoir, une mystification, vous voyez, du maître, j'en sais rien, en fin de compte, évidemment, on amène progressivement l'élève, ce que dit, alors ça c'est issu de Condorcet, c'est pas récent cette idée. On amène l'élève, non pas, on le conditionne à des savoirs qu'on aurait choisis à l'avance, mais on amène l'élève, quel que soit le savoir qu'on est en train de traiter avec lui, à le comprendre de lui-même, de l'intérieur. Mais pour ce faire, le point de vue, on appelle ça la perspective républicaine dans la pédagogie. Pour ce faire, dans cette perspective-là, pour ce faire, évidemment, il faut bien que l'enfant, donc là je parle primaire et collège, il faut bien qu'au départ, quelqu'un le mette en route, qu'on lui donne quelque chose. Qu'après le fait que vous avez dit dans le texte, que d'échec en échec, il intègre les choses, c'est une chose. Mais s'il n'y a pas, comment on appelle ça, un gouvernail, s'il n'y a pas un gouverneur, s'il n'y a pas quelqu'un pour guider, il ne peut rien se passer. Les aides sont livrées à eux-mêmes. Il ne peut rien se passer. Ça, c'est le fondement de ce qu'on appelle la perspective républicaine. C'est-à-dire l'idée que je ne suis pas là pour former des gens à telle ou telle compétence, ingénieur, j'en sais rien, je suis là, ça peut l'être, mais c'est secondaire. Ce qui est primaire, ce qui est primordial, je suis là pour former des êtres à penser par eux-mêmes, à connaître par eux-mêmes, et à pouvoir, comme disait très bien Bernard, avec cet idéal que peut-être c'est l'avenir de l'intérêt général qui est à construire, justement, à pouvoir participer dans l'espace public à cette immense discussion démocratique, qui consiste à essayer de voir ensemble, en argumentant, en réfléchissant, en essayant de connaître, de savoir, en se disputant, etc. Je renvoie au texte de Paul Ricoeur, qu'on avait donné un peu avant, sur le conflit en démocratie. Hein. Construire petit à petit, par eux-mêmes, ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général. Oui. Par eux-mêmes. Ça, alors évidemment, on retrouve, c'est le reste, et il y a beaucoup de professeurs qui fonctionnent comme ça. Qui supportent pas quand un prof, ils appellent ça, ils ont des noms, ils disent pas les parents. Ils disent pas, je vais voir un parent. Je reconnais que ça, parce que quand ça des profs, oh, bah, tu fais quoi, tu viens boire un café, ben non, là, j'ai rendez-vous. Ils disent pas un parent, ils disent un client. avec un mépris, tu vois un client. Mais un client qui croit que je suis là pour lui, quoi. Et moi, je suis pas là pour lui, je suis là pour l'intelligence de son mot. Ça n'a rien à voir. Mais, et on sent le mépris, hein, quand même. Je vois le client et puis je prends le café. Voilà. Par contre, ceux qui sont dans l'autre perspective, évidemment, on ne voit pas du tout ce discours-là. Enfin, ah bah tiens, je vais voir le papa ou la maman d'un tel, on va pouvoir discuter, on va faire une discussion ensemble, on verra. Voilà, c'est une autre démarche. L'école, du coup, deux perspectives. La perspective républicaine et l'autre perspective, dont le terme est très trompeur. Si vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous allez voir pourquoi et comment. Le terme est très trompeur. L'autre perspective, alors il n'en est pas à l'initiative, évidemment, ce serait faux. Mais dont le point fixe, celui qui en fait la synthèse, est effectivement Merleau. C'est l'étonnant de ce type de pédagogie, et c'est justement elle qu'on appelle la perspective pédagogique, par opposition à la perspective républicaine. La perspective pédagogique, c'est les tenants de ceux qui pensent que être enseignant, c'est un métier comme un autre. Simplement, le problème de l'enseignant, c'est ce que Merleau appelle la professionnalisation. C'est-à-dire que le problème de ce métier, c'est qu'on ne l'a pas encore défini. Donc on va le définir. On va lui donner un cadre. C'est un boulot. C'est comme dans n'importe quel autre boulot social. Simplement, son boulot pour l'instant est mal défini, on va le définir. Et évidemment, cette fois-ci, il y a une désacralisation du rôle. Ça devient du point de vue bien technique. Si c'est un métier, il y aura un savoir-faire. On doit pouvoir définir ce savoir-faire. On doit pouvoir l'enseigner. On doit pouvoir le transmettre, ce savoir-faire. Hein? Il doit avoir un savoir-faire enseignant. Ça démarre dans les années 60-70. On a eu 68, évidemment, pour accélérer les choses. Hein, 70. Mais c'est en place par les UFM dans les années 90. Les premières étant en 93, 94, je crois. Dans les années 1990. Les UFM vont jouer ce rôle-là. Vont jouer le rôle de professionnalisation des enseignants. D'ailleurs, maintenant, les enseignants, les jeunes collègues que moi je croise dans les couloirs ou qui viennent chaque année dans des établissements pour se former aux métiers enseignants, ce qu'ils font eux, rien à voir avec ce que moi j'ai fait. Rien à voir. Je n'ai pas été formé comme eux. Les contraintes qu'ils ont, non pas dans leur métier, dans la formation de leur métier, moi je ne les ai jamais eues. J'ai jamais eu ces contraintes-là. On sent qu'en l'espace de quelques dizaines d'années, il y a eu un véritable changement dans la profession. Maintenant, on parle même de masteriser le professeur. C'est-à-dire,
L'idée étant que, en fin de compte...
C'est l'hypothèse merveilleuse.
L'hypothèse, c'est que, en fin de compte, le niveau a baissé. D'accord. Niveau bas. D'accord. Ben, peut-être que pour relever le niveau, il faut des gens plus intelligents. Plus on aura... ça, l'équation. Plus on aura... C'est-à-dire que plus l'écart sera grand, plus l'écart sera grand, et plus on pourra peut-être ramener les choses. Ça parle. Bientôt, on aura des normaliens, voilà, enfin bref. Pourquoi pas. C'est à Paris, dans une conception, évidemment, en même temps. C'est argumenté, c'est argumenté. Du coup, par rapport au problème du but de l'école dans tout ça, alors la crise, on voit que là, elle est simplement que l'école se cherche. Elle se cherche un but, elle se cherche au niveau même de son métier. Qu'est-ce qu'elle est, si elle est là pour ça, c'est pas la même chose. Donc, moi, en tant que prof, c'est quoi mon rôle, etc. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois enseigner, etc. Donc, elle se cherche. En fait, l'école est en train de naître. L'école, au sens public, au sens laïque, est en train de naître. Elle n'a jamais existé dans l'histoire avant. Elle n'a jamais existé. Quand je dis avant, c'est avant le 18e siècle, 19e siècle. On ne peut pas réduire toute l'histoire de l'humanité à deux siècles. Donc, cette conception-là, oui, peut-être qu'elle est en train de se mettre en place, et qu'il faut, voir, il faut peut-être participer à ce débat-là aussi. Après tout, ça fait partie aussi de la responsabilité du citoyen de savoir quelle école il veut. Et c'est là où on va apparaître, je terminerai là-dessus, je conclurai là-dessus, c'est là où on va réapparaître ce que disait Bernard, ces tensions-là. C'est qu'au départ, dans le premier cadre, le cadre laïque, dans lequel s'est créé ce qu'on appelle l'école, dans le premier cadre, il s'agissait de clarifier les choses, d'habituer les individus à faire de leur croyance quelque chose de privé. Même si on a bien vu qu'il y a eu des dérives qui ont fait, dans les années 90, le débat est revenu, mais... Je parle au niveau des intellectuels comme Mérieux, justement, ça les faisait un peu sourire, mais en fin de compte, non, c'est peut-être un problème grave. Le foulard islamique, par exemple, ces choses-là, on voyait réapparaître, on croyait que ça avait complètement disparu, mais on voyait réapparaître ces gens qui venaient à l'école pour essayer d'imposer leur conviction, leur foi, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que vous aviez je me souviens de ça dans les années 90, au niveau, au tout début de ces affaires-là, vous aviez, c'était après donc le fameux décret de M. Jospin, où il y avait des jeunes, par exemple, qui sortaient du cours de biologie. Mais c'était légitime. Ils sortaient du cours de biologie parce que leur foi leur interdisait d'écouter un discours qui dit n'importe quoi, l'homme ne descend pas du singe, etc. L'homme, c'est Dieu. Mais en fin de compte, c'est tout de même, d'ailleurs c'est dit dans le document que je vous ai distribué, c'est assez bien dit, tout ça je vous l'ai mis, c'est tout de même en marge aujourd'hui. Ce combat-là est en marge, ça réapparaît, c'est assez vite réglé, en tous les cas apparemment ça s'est assez vite réglé, il n'y a plus ces problèmes-là, et ils sont liés de toute façon avec les problèmes sociaux, l'intégration, etc. Ils ne sont pas liés aux problèmes laïques publics. Ils sont plutôt liés, dans ce cas-là, à l'histoire sans doute de la guerre d'Algérie, des contre-coups, etc. Donc autre chose, un autre phénomène qui est venu se greffer. Très bien, on part de là. Il semble qu'on ait dépassé ça. C'est ça que j'entendais par dépasser la laïcité. On a dépassé ce combat-là. Par contre, maintenant, et c'est là, la crise à la limite, c'est le seul sens que moi je voudrais, là je m'engage un peu, en tant que crise, s'il y avait une crise, c'est pas... l'école qui est en crise, en elle-même, il n'y a pas de crise, l'école se cherche, et c'est normal qu'elle se cherche. Je ne vois pas comment elle pourra se construire autrement. Elle ne peut pas tomber du ciel, il va falloir qu'elle se construise. Très bien, l'école se cherche, mais par contre, elle se cherche dans un espace où on a une confrontation qui fait qu'effectivement, elle peut ressentir aussi cette crise-là, c'est-à-dire que, et c'est là où l'idée parent-client peut être intéressante à analyser. Moi, je travaille dans un lycée privé sous contrat, par exemple. Donc, parfois, on rencontre ces difficultés-là. Privé sous contrat, ça veut dire plutôt dans ce sens-là. Va se poser, alors c'est la seule chose que je donnerais de sens de crise, si vous voulez, au sens positif, va se poser le problème suivant, c'est-à-dire, très bien, le but de l'école, est-ce que c'est, parce que si l'intérêt général, c'est, comme la croyance répandue aujourd'hui, le libre jeu des intérêts particuliers, de l'entreprise, etc., il est de l'intérêt de l'école, pour défendre l'intérêt général, de servir le libre jeu voyez l'idée? Et donc, de plus en plus, évidemment, on met la pression sur le système, pas seulement sur les enseignants, sur le système éducatif tout entier, on met la pression pour voir dans quelle mesure notre professionnalisation, je prends encore l'habitude, professionnalisation de notre profession ne serait pas l'occasion, alors qu'elle n'était pas faite ça, elle n'était pas faite pour ça au départ, elle était faite pour répondre aux problèmes qu'on rencontre dans les classes. Mais là, et bien de plus en plus, on en vient à l'idée que est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de cela pour former, pour mettre à l'intérieur de la formation de l'enseignant, aider l'enseignant à former les métiers de demain, aider l'enseignant à former les bons entrepreneurs, les bons ouvriers, etc. Donc il y a évidemment, il y a l'entreprise a de plus en plus de choses à dire sur le rôle, la place et le sens de l'école. Vous voyez? Et il est de plus en plus mal vu, même au niveau des professeurs et des directions, on le voit bien, il est de plus en plus mal vu pour nous de ne pas de faire les choses, des projets, par exemple, dans les établissements, on avait fait le projet en ROS, peu importe, voilà, c'est un peu culture générale, si vous voulez, on a pu être confronté effectivement à ça, mais au bout du compte, ceux qui vont sortir de notre lycée pour faire telle ou telle école, ils vont retenir quoi dans ça? Ça va leur servir à quoi dans leur vie? Donc, comme si on devait justifier l'impératif. Tu disais l'impératif marchand, c'est presque l'impératif comptable. Comme si ça rapporte quoi? Ça rapporte combien? Vous voyez? Et bien, je préfère à ça, évidemment. Alors, moi, dans un lycée privé sous contrat, ayant travaillé, je vais à la fois dans un lycée public et un lycée, donc je vois bien, j'ai vu les choses de l'intérieur, si vous voulez. Dans un lycée privé sous contrat, oui, il y a cette idée-là en permanence. Alors, qu'on pose avec. On laisse croire aux parents que oui, vous inquiétez pas, on est là pour vous, pour vos enfants, dans les meilleures écoles. On essaie de répondre à ça, mais à côté de ça, évidemment, on a aussi tout un travail. C'est que le but du jeu, on est toujours en train de on joue à cache-cache. On laisse croire aux parents que nous, dans nos classes, évidemment, on cherche la culture générale, on cherche à essayer d'avoir quand même, que nous on appelle pédagogique, qui n'a rien à voir avec ça, pédagogique au sens amener, c'est dit dans votre texte, amener l'individu à au moins penser par lui-même ce qu'il pense, peu importe ce qu'il pense. Vous voyez? Mais je ne parle pas qu'en philosophie, je parle à tous les niveaux, mathématiques, physique, etc. Là, on a un même combat. Avec ça, avec cette. Alors c'est là où on se sent parfois mal à l'aise. Il y a cette pression des parents, on est de plus en plus dans un clientélisme. Et attention, ça n'a pas du fait que je parle du point de vue d'un lycée privé sous contrat, c'est vrai même pour les lycées publics aujourd'hui. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Privé sous contrat, c'est public, hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Les lycées privés sous contrat, c'est après la loi de Debré en 1959, c'est parce que l'État
a dit, c'est très vite comptable. Histoire de fric, histoire réelle. Avant, les lycées privés dépendaient directement du diocèse. C'était ce qui restait de l'ancien régime et de l'ancien système. Et vous, donc, vous saviez où vous mettiez votre enfant. À partir des années 60, ce qui s'est passé avec la loi de Debré, c'est qu'à partir des années 60, problème, baby boom. Après la guerre, on est content, on fait des enfants, ben, vous savez ce que c'est. Hein? Baby boom. Mais c'est tous ces petits-enfants, là, il faut les mettre quelque part, faut bien les mettre à l'école. Le choix budgétaire était simple. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des établissements. Alors, très cher, c'était pas évident. Soit on lance un grand chantier. Avec cette idée, on le voit bien dans la loi, dans l'esprit de la loi, avec cette idée, oui, on ne sait pas que ce sera fait après-demain. C'est-à-dire que si on construit tout l'établissement, par exemple les années 2000, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a moins d'enfants, on va se retrouver avec des établissements à gérer pour rien. Donc l'idée, c'était de demander aux lycées privés s'ils acceptaient un marché, c'est pour ça qu'on dit sous contrat, un contrat avec l'État. Donc moi, en fait, je prends du public, pas du privé. Un contrat avec l'État, c'est-à-dire on vous donne nos professeurs, vous n'allez pas payer les profs. Vous n'avez même pas à les former. Par contre, ils enseignent ce qu'on leur dit. Ils n'enseignent pas ce que vous dites. Ce qu'on leur dit, l'État. Ils ont les mêmes programmes qu'ailleurs. Moi, j'enseigne en public et en privé, j'ai enseigné les mêmes choses. J'ai jamais changé. On va changer un peu parce que on change un peu les choses. Hein. Je n'ai pas changé les années, c'est très bon. Je n'ai pas répété, je n'ai pas vu le même cours non plus, mais d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'État a proposé, on vous donne même des subventions pour entretenir, il y a une part de subventions.
fonction, entretenir tant de classes, tant d'élèves, très bien, là vous avez le droit à temps pour entretenir les murs, les classes, etc. Hein. Et vous, par contre, vous gérez le cadre, l'administration. Donc l'administration, oui, est payée par ce qu'on appelle l'OGEP dans le privé, donc l'organisme de un organisme qui dépend du diocèse, qui ne dépend pas de l'État. C'est-à-dire que le directeur, le sous-directeur, les surveillants, tout ça est payé effectivement par l'Église, au bout de compte. Par contre, les profs comme moi, ils arrivent, moi ma fiche de paie, c'est le rectorat. Je fais partie, c'est le contrat avec l'État. Alors pour pousser les profs, c'est pour ça qu'il y en a un certain nombre, on n'est pas des traîtres en fait. Parce que quand on rencontre des gens du public, des fois, aux harmonisations, c'est des traîtres. Alors vous l'aurez compté, la mère, vous savez, il n'y a que comme ça qu'on gagne, il y a une façon. Non, en fait, c'est tout simplement parce que, évidemment, alors voilà mon cas personnel, c'est que quand moi ça s'est présenté, quand j'ai été certifié par exemple, au moment où j'étais certifié, si j'avais coché la case publique, ben je serais aujourd'hui, je serais peut-être à Lille, à Paris, j'en sais rien. C'est-à-dire que pour pousser les profs, il y avait cette condition-là, ben très bien, parce que les profs n'avaient pas envie d'aller bosser dans le privé. Vous voyez ça, c'était un pacte avec le diable, au début, au point de départ, vous voyez. C'était un retour en arrière. C'est la peur. Donc évidemment, ils n'avaient pas trop envie, et donc quand on a envie, on va redonner certains avantages, et c'est vrai que du coup, j'ai cet avantage, je peux choisir. Du coup, ça m'a permis, moi j'avais des enfants en bas d'âge, ça m'a permis de rester, voilà, dans la région. Mais et dans les lycées privés sous contrat, les 80%, il y en a 20%, je suis d'accord, mais c'est 20%. Vous avez 20% de profs qui sont là par conviction religieuse. Parce que à côté, et ça je reconnais, comme il y a un certain pourcentage de parents d'élèves qui sont là par conviction religieuse, parce que c'est un lycée catholique, et que pour eux, évidemment ça existe. Mais les 70 ou 80%, que ce soit les parents d'élèves ou les profs, ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour l'espace, ils sont là pour ça. Simplement dans ce cadre-là, parce que l'État n'a pas les moyens de créer ces espaces-là, l'école, vous voyez. Et pour finir là-dessus, alors la crise, du coup, là, ce qu'on appelle la crise globale, mais la crise, est, vous savez que des fois, on parle un peu d'école privée, des gens descendent dans la rue, etc. La crise du privé, maintenant, est là. C'est, évidemment, on était comme ça, maintenant, on est comme ça. Et que dans le privé, ben, les effectifs descendent, que la plupart des élèves dans le privé pourraient très bien être intégrés dans le privé, de plus en plus. On se retrouve parfois ben, dans des... Moi, j'ai travaillé dans un établissement, pas le nom. J'avais une terminale, j'avais 3 élèves. Ah, c'est impeccable, hein. J'ai eu 100% au bac, je croyais. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, pour attirer les parents, la directrice, c'était dans une chapelle, c'est privé de contrat, la directrice avait mis sur grand écran, terminale elle, 100%, elle n'est pas plus longue. J'ai pas les terminales L, j'ai pas les terminales L cette année. Faudra me demander à M. Batello. Il y a eu 100% l'année dernière, en L. 100% avec un bac au bac. Les profs de mon lycée sont très bien. Voilà, pour finir, donc il y a ça qui sera juste, hein, il y a ça qui sera juste, c'est que nous, les professeurs du lycée, de plus en plus, on se sent sur la brèche. C'est-à-dire que dans le lycée privé, on nous enlève tous les privilèges qu'on avait pour être dans le privé, en fait, ils sont supprimés petit à petit. Par exemple, moi, là, si mon lycée ferme demain, je sais maintenant, c'est une loi qui est passée il y a 2 ans, si mon lycée ferme demain, on me donne un choix. Si je le prends pas, dehors, mon CAPES ne vaut plus rien. Donc, autrement dit, voilà, le contexte, tout peut changer. C'est-à-dire que ce qui est vrai à un moment peut devenir faux. Alors c'est pour ça que je dis bien aux jeunes, allez-y, faites des enfants, n'hésitez pas. Voilà. On a besoin de moi. Bon, je vais arrêter là parce que vous ne pas.
Le privé, là, c'est bien par jeu.
je répéterai.
C'est bien par une absence d'ordre public.
Qu'est-ce que vous voulez dire par privé? Celui-ci ou celui-ci?
L'école privée.
Ah, l'école privée.
L'école privée. L'école sous contrat. Donc c'est bien par une absence des responsabilités qu'un
roi. Oui, c'est-à-dire que les syndicats du privé s'appuient là-dessus. Sur l'idée, mais vous ne pouvez pas abandonner les profs du privé. C'est vous qui les avez mis dans cette position. Vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas voulu construire d'établissement. Très bien, les profs ont accepté le jeu. Ils y sont allés. Très bien, vous n'allez pas maintenant leur taper dessus. Vous n'allez pas les abandonner au moment... voilà.
C'est la raison pour laquelle, en 84-85, il y a eu quand même 2-3 millions de personnes dans la rue.
Oui. Puis ça va revenir, hein, je pense. Que...
Oui. Après ça, je reviens... à l'historique des écoles primaires. Le principe, ça existe encore aux USA, il y a l'uniforme, on enseigne la constitution américaine, les lois, on défile par rang dans toutes les écoles, dans les jeunes. Donc, Jules Ferry exerce encore aux USA cet angle-là, en tout cas. Donc, il y a le respect de l'institution, on passe beaucoup de temps à enseigner comment fonctionnent les institutions américaines et on sacralise la Constitution. C'est quelque chose de sacré. Donc on est bien dans l'esprit de Jules Ferry.
Oui. Je n'ai pas compris. Simplement, aux États-Unis, il y a un problème qu'ils n'ont pas et que nous on a, c'est que les États-Unis ne se sont jamais posé la question de la création d'un État laïque comme nous on le pose. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils sont là, hein. C'est les lobbies de la politique. Donc ils n'ont pas ce problème.
Alors, un autre exemple, ce qui marche en école, un exemple très concret, surtout dans les universités, dans les écoles, on va dire ce qu'on appellerait l'équivalent des lycées chez nous. Quand est arrivée l'informatique, les écoles n'avaient pas, au départ c'était très cher, n'avaient pas les moyens. Alors, des entreprises comme à l'époque, Hewlett Packard était très performant pour installer, centaines de milliers d'ordinateurs dans les écoles américaines. C'était très marchand, il les donnait gratuitement, parce que, surtout dans les universités, parce que les décideurs de demain, c'était ceux-là qui sortaient des écoles, ils allaient acheter après, et c'était très intéressant. Et il faut bien voir comment. S'investit dans les écoles américaines, c'est très simple, hein. C'est très rentable.
Oui, mais est-ce que vous, en tant que parent ici en France, vous accepteriez ce système où les entreprises privées viendraient prendre un temps sur le temps d'enseignement et d'instruction pour vendre à la fois leurs produits et puis apporter leur savoir-faire, leurs compétences, mais leur manière d'être? Je ne suis pas sûr que vous ayez envie que vos enfants vivent comme on vit dans l'entreprise Coca-Cola, c'est ça que je veux dire.
C'est une opération de marketing,
oui. D'accord. Oui. L'idée qu'on en arrive de plus en plus à l'idée que l'enseignant doit être, c'est un métier. Parmi d'autres, il n'y aurait pas une place privilégiée à côté ou je ne sais quoi, ou un aura ou je ne sais quoi, mais c'est un métier parmi d'autres. Et qu'on le forme, en fin de compte, à être précisément tel ou tel métier qui lui-même a formaté telle ou telle chose, etc. Est-ce que ce n'est pas la boucle, en fin de compte, est-ce que ce n'était pas le point de départ lorsqu'on fermait les instituteurs, si j'ai bien compris, les instituteurs, s'ils sortaient à peine du primaire en fin de compte, les instituteurs à devenir eux-mêmes instituteurs et à reproduire toujours la même chose. Simplement, peut-être Mais en tous les cas, le but n'est plus le même. C'est-à-dire que le statut de l'instituteur, c'était bien, comme le dit le terme instituteur, c'était de participer à l'institution. Le statut du métier, ce qu'on appelle le métier d'enseignant aujourd'hui, c'est pas de participer à l'institution, on ne sait même plus ce que ça veut dire l'institution. C'est surtout de participer à ce processus, c'est la phrase que vous utilisez tout à l'heure, je ne me souviens plus de la phrase, elle était intéressante, mais de participer à ce, on a dit ce libre jeu des intérêts particuliers, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites à l'école pour que, effectivement, je dis la phrase que vous disiez, relancer la consommation, pour participer à ce processus de consommation, donc c'est plus le même, c'est plus le même objectif. Mais c'est vrai que l'idée, c'est, alors, comme ceux qui ont résisté et ont permis la première révolution, les années 60, on va dire, comme ceux qui ont résisté à ça, ce côté, les instituts primaires pour la masse, les autres au milieu pour la classe moyenne, les notables, ce qu'on appelait à l'époque la bourgeoisie, et les autres, l'élite, pour casser ça, la première révolution, vous voyez, les mêmes qui ont résisté, qui ont fait cette révolution-là, continue aujourd'hui dans le même processus, qui résiste à ça, c'est-à-dire qu'ils s'opposent à la professionnalisation de l'enseignant, en essayant de montrer tous les pièges de cette professionnalisation, tous les pièges, évidemment. C'est Finkel Crott qui part, ben c'est le samedi matin, hein, de 9h à 10h, je crois, sur France Culture, je ne sais pas si vous connaissez son réplique. Bon, ben, de temps en temps, il en parle, si vous tombez dessus, vous allez voir, c'est un intégriste. C'est un intégriste au sens, pour lui, Bernieux, c'est vraiment les... oui, c'est le mal, c'est le cancer. Comme dans l'ancien régime, les curés étaient un peu... voilà.
Oui. Non, là.
Oui, je n'ai pas bien compris le système privé qui est en baisse.
Et moi aussi.
Parce que, bah, regarde, je crois, entre parents, je m'intéresse entre guillemets au classement du lycée. Oui. Et si on prend l'Express de l'année dernière, le premier lycée sur l'Isère, c'est le lycée international, mais lui, il ne le prévoit pas. Après, vous avez quatre privés, donc je crois. Et après, il y a Pontchartrain. Alors, je ne comprends pas bien s'il y a quatre privés dans les premiers.
Je vous remercie de cette question, ça me permet de clarifier quelque chose.
Voilà, parce que je n'ai pas
Alors, la question, c'est... Alors, je ne comprends pas bien pourquoi je dis qu'il y a une dégénérescence du privé. En ce moment, on est plutôt en baisse, et que d'ailleurs, le statut des profs est en train de changer, et que certains... Là, il y a une réforme qui fait qu'on va supprimer dans les sous, par exemple. Il y a une réforme qui se met en place. Il y a trois profs de physique qui doivent partir, deux profs de maths. La réforme fait, puisque la réforme elle-même est comptable. Il s'agit de réduire le maximum. Et bien, c'est dramatique, hein, c'est vrai, parce que là, il y a des gens qui sont dans mon lycée depuis plus longtemps que moi, qui ne savent pas où ils seront l'année prochaine. C'est pas gagné. Alors, moi, je parlais de ça. Vous, je comprends ce que vous dites. Mais vous, c'est un autre niveau. C'est précisément le professeur qui va... C'est le professeur dont je parlais tout à l'heure qui dirait, voilà, je vois la pignon. On ne parle pas du résultat au bac. On ne parle pas le fait que dans les lycées privés, que globalement, les lycées privés restent dans le classement. Globalement, parce que c'est pas vrai dans la région parisienne, par exemple. Mais globalement, on va dire en province, reste apparemment là où on trouve les meilleurs résultats. Avec des cas particuliers. Moi, je me souviens, j'ai travaillé à Albertville, c'était l'inverse. On avait 40% de réussite dans le privé et ils avaient 90% dans le public. Enfin, il peut avoir... Parce qu'on était un petit lycée qui commençait à vivre la crise. Hein, c'est le lycée Jeanne d'Arc à Albertville, qui commençait la crise. Un petit lycée, et qu'est-ce qui se passait? Bah, la crise est là, il y a moins d'enfants dans les classes, et on prenait ceux que le lycée public ne voulait pas. Donc les 40% qu'on avait au bac, c'était un bon résultat, en fin de compte, parce que c'était les 0% d'ailleurs. Si vous voulez. Donc se méfier de ces pourcentages. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Maintenant, c'est vrai, vous avez raison. Il y a dans chaque région ce qu'on appelle un lycée hybride dans le privé. C'est-à-dire un ou deux lycées qui ont les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats. Il faut voir le recrutement. Il faut voir comment on rentre dans ces lycées. Il faut voir les conditions. C'est pas évident, les conditions. Ce qui est mis en place. Donc, en fin de compte, vous avez raison sur ce plan-là, mais je crois que ça, vous aurez toujours raison. Le privé fera toujours en sorte, parce que c'est la dernière chose qui permet de se vendre. Il n'y a plus rien d'autre. Il y a deux écoles, hein, dans le contrat, là je parle de l'intérieur. Il y a deux thèses. Soit on joue là-dessus sur le résultat, soit on fait en sorte que le peu de lycées qui restent en place, avec le peu de personnel qu'on a, on reste les meilleurs, ce qui est tout à fait possible.
Ça dépend comment on s'y prend, comment on recrute. C'est tout à fait possible. On reste les meilleurs. Ou alors, deuxième thèse, c'est là où il y a un retour. De plus en plus, on demande aux profs, est-ce que vous pourriez pas une heure, une demi-heure, est-ce que vous pourriez pas parler un peu des évangiles, est-ce que vous pourriez... Ça, de plus en plus, on a la pression. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un retour, c'est pas qu'il y a un retour, mais bon, on sait que vous êtes du public. Mais bon, vous voyez bien, votre boulot, donc il faut qu'on puisse vendre notre truc. Très bien. Pour les parents, savoir que les professeurs ici ont une compétence, une humanité, comme on disait avant. Une compétence religieuse qu'on ne trouve peut-être pas dans le public, ça peut être intéressant. C'est que, paradoxalement, on va utiliser la religion comme appel d'offres, vous voyez ? Comme appel d'offres. C'est-à-dire que de plus en plus, évidemment, si le professeur dit, ça ne m'intéresse pas, moi je suis là pour faire mon boulot, on a mandat, mais on propose. Je ne dirais pas non, mais il y a un département, je ne sais pas si ce n'est pas le nôtre, il y a un département où maintenant, pour rentrer, quand vous êtes maître au diocèse, vous allez déposer votre dossier, après vous proposez le rectorat, etc. Pour rentrer, on demande, et il n'y a que là, ce type de recrutement pour tout ça, il y a la case, êtes-vous catholique, protestant, athée, faut la remplir.
Ah oui,
faut la remplir, oui. Je ne donne pas le nom, mais il y a un département.
Et la condition, c'est d'accepter de donner des leçons,
justement. Je n'ai pas entendu.
Et la condition, c'est justement de donner des cours
de catéchisme. C'est pas vu comme ça, c'est fini.
C'est, oui, mais...
En plus, c'est pas de philo, alors vous imaginez. La philosophie, mais...
Dans un établissement comme ça...
Pourquoi les évangiles ne seraient pas, comme Descartes, un contexte de philosophie? Pourquoi pas? En plus, c'est pas un fondé, comme vous voyez. Mais on ne va pas lui demander de faire du catéchisme. Hein.
Mais on peut très bien refuser ce genre de questions. Vous pouvez les refuser.
Tout à fait.
Vous pouvez vous mettre en groupe et dire nous refusons de les
faire. Ah oui, il y a une obligation. Mais tous ceux qui ont refusé, je parle du département auquel je pense, tous ceux qui ont refusé n'ont jamais été pris. Ils ont droit, hein. Ils n'ont jamais été pris. Oui.
Vous avez dit que l'école avait l'individu à penser par lui-même. Je trouve ça super, mais moi, dans l'expérience que j'ai toujours pas appris ça. J'ai plutôt appris à obéir. J'ai eu l'impression d'une école assez dictature, où on disait en permanence ce que je devais faire. Et absolument pas, j'ai appris à penser par moi-même. J'avoue que si ça avait été comme ça, j'aurais aimé l'école. Là, ça n'a vraiment pas été bien.
L'école publique ou l'école publique?
Ah, c'est une mauvaise école. C'est pas parce qu'on a l'intention de le faire qu'on réussit, hein. Je veux dire, c'est pas évident, c'est pas évident. Hein.
Je pense que c'est idéal.
Vous constituez l'hypothèse d'une manière d'une perspective républicaine.
Qui? Moi, en tant que. Alors, moi, je suis plutôt un réflexe agnostique, plutôt un réflexe sur le questionnement.
D'accord, donc, ni dans une problématique, ni dans.
Moi, je participe, on appelle ça CEPEC, par exemple. C'est donc. Le CEPEC est au privé, ce que l'IFM est au public, si vous voulez. Donc, je participe avec le CEPEC à. Alors, c'est pas vraiment la formation des enseignants, mais c'est plutôt réfléchir sur justement, c'est merveilleux, etc. C'est de réfléchir. Donc, c'est une fois tous les mois, je crois, samedi matin. On se retrouve un peu des professeurs de différents lycées. Et on discute quoi, de ces choses-là. On voit bien que non, c'est. Enfin, je ne sais plus la question.
C'est quoi?
Oui. Oui, moi c'est plutôt, le côté laboratoire. Le côté laboratoire, pour l'instant, je n'ai pas tranché. Il me semble que les deux en disent quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire que la perspective républicaine, à cela qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, quand moi je rentre dans un cours, je retiens de la perspective républicaine, quand moi je rentre dans un cours, si je me mets à égalité à l'élève, ça ne marche pas. Ça, je l'ai vu, ça ne marche pas. On n'est pas à Carrefour, on ne choisit pas le savoir comme on choisit un paquet de bonbons. On n'est pas à Carrefour. Donc, mais par contre, notre perspective est intéressante parce que, comme elle utilise beaucoup la psychologie, la sociologie, c'est vrai que ça peut être intéressant pour nous de savoir tel problème, comment agir dessus, etc. Donc les deux sont intéressants. Il faut trouver une synthèse. Oui, oui.
Madame là-bas.
J'ai été enseignante toute ma vie et je fais du soutien scolaire depuis 18 ans. Et je j'ai l'impression que c'est, ça n'est pas, enfin, je ne sais pas que, si ça vient du professeur, je pense d'abord qu'il y a des programmes qui sont trop lourds et au bon compte, on peut apprendre beaucoup par cœur. Moi, je dirais le milieu naturellement socio-défavorisé. Et on a aussi à se battre contre TF1, contre la presse, etc., contre Internet, etc. Et que les élèves sont beaucoup plus élevés par ça. Dans les familles, on n'apprend pas, parce que dans leur famille, bon. Mais je pense que, moi j'essaye justement, mon but c'est de leur apprendre à comprendre, à réfléchir, etc., ce qui est des problèmes. Mais que le collège, entre autres, eh bien, ça, mon but n'est pas d'atteindre ça. Mais je pense que c'est difficile de lutter contre.
Mais disons, je ne sais pas si c'est une réponse, mais une des difficultés qu'on a, c'est, moi je vois bien quand on est de devoir maison par exemple, une difficulté qu'on a, c'est comment on fait pour résister à la pression, alors vous avez dit médiatique, mais j'ai envie de dire la pression de consommation qu'il y a autour dans la société, lorsque l'élève est en dehors, du cadre de l'école, mais comment on fait nous à l'école pour se protéger de ça, pour que l'élève ne fonctionne pas de cette manière-là à l'école. C'est très difficile, l'élève continue à fonctionner de cette manière-là à l'école.
Ce que je voudrais dire, moi, là, parce que on ne pas tomber, on va finir par tomber dans des problèmes qui sont plus d'ordre catégoriel, finalement, et défense de privilèges ou pas de privilèges professionnels. L'intérêt de tout ça, c'est quand même de voir qu'il y a une espèce de lutte entre le désir de connaissance et la référence à des croyances, qui est constante, et qui se cache parfois derrière des visages qui ne ressemblent pas à ce dont il est question. Dans le schéma d'avant, les technosciences ne sont pas déterminées par la recherche de connaissances. Ils sont déterminés par la recherche de l'efficacité et du profit qu'on va en tirer. À ce niveau-là, ça correspond à l'impératif marchand. La connaissance, elle se situe au niveau des sciences. Et elle peut se situer au niveau de l'espace public. Ce qui ne veut pas dire qu'elle s'y situe. Mais si elle se situe quelque part, c'est là. Et l'école là-dedans, l'école, c'est bien. Mais je connais un collègue en philosophie qui dit qu'il est trop tard de développer l'esprit critique des gens à 17 ans. Il y a déjà longtemps que c'est fini, ou que c'est de toute façon irrévocable. Quand j'étais prof, moi aussi, à l'époque, la particularité française, c'était l'enseignement philosophique. Ça développait l'esprit critique. C'est gentil pour nos voisins anglais, allemands, espagnols, italiens, qui n'ont pas cette spécificité, et qui donc, vraisemblablement, doivent avoir moins l'esprit critique que nous. Ça se saurait. Ça se saurait. D'où l'esprit critique, heureusement. Heureusement, et penser par soi-même, heureusement, se développe dans des tas d'institutions, dans des tas de lieux autres que l'école. On peut espérer qu'à l'école, ça se développe aussi. Mais ça n'est pas le seul lieu où ça se développe. Et parfois, l'école a précisément pour but, parce que l'école prise dans ce système-là, où elle est effectivement sous la dépendance de cette soif de connaissance. Et elle va essayer de développer l'esprit critique. Mais elle peut aussi se trouver sous la dépendance de l'impératif marchand. Et dans ce cas-là, ou de l'impératif de croyance. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut croire, il faut obéir, il faut apprendre un mode de vie, un mode de comportement, et l'école est un moyen d'intégration, et non pas un moyen d'expression et d'apprendre à penser par soi-même. Tous ces pôles là qu'on a vus sont en lutte constante, en contradiction constante. Et actuellement, tous les problèmes auxquels on se trouve confronté, ben bien précisément que la contradiction entre ces différents éléments devient un peu exacerbée. Quand il y a une espèce de fonctionnement plus ou moins consensuel, bon ben ça va. Hein. Mais actuellement, rien n'est consensuel. On voit bien que les théories sur lesquelles ça fonctionnait, eh bien, ne marche pas. Ces dogmes dont j'ai parlé, qui sont à l'origine de l'intérêt privé et du fait que l'intérêt général découlerait de l'intérêt privé, on voit bien que ce n'est pas si simple actuellement. Donc, ben voilà. Hein. Et alors, on est dans une situation où, effectivement, on patauge.
Oui.
Il me semble que c'est justement ça, il est important de ne pas se tromper de problématique, enfin, je ne sais pas comment dire, parce que dans tout ce que vous avez dit, moi ce qui me frappe, c'est qu'il ne faudrait pas partir sur un antagonisme trop fort entre les perspectives républicaines et les perspectives pédagogiques, par exemple. Ça ne semble pas être un problème fondamental, il me semble qu'il y a des choses qui peuvent se rejoindre. Sur le fond, entre ces deux perspectives, alors qu'il y a des dangers beaucoup plus importants pour l'école par rapport à ce que vous avez dit sur le risque d'être pris par l'interactif marchand, enfin d'être mené ou dirigé par l'interactif marchand, ou de retomber sur des choses de l'ordre de la finance. Voilà, je me sens que ça c'est plus important. Une problématique que d'être dans une. Et qu'on risque de se tromper de combat dans les débats d'aujourd'hui. Donc voilà,
pour vous répondre, alors je pense comme vous, la seule chose, c'est que pour moi, les deux, c'est la même chose. La confrontation, et alors avec l'idée de chercher une synthèse, par exemple, je parlais du CEPEC, c'est ce qu'on essaie de faire au CEPEC, plutôt une synthèse, de trouver. Des fondements qui soient, sinon communs, par les cas, des compromis qui permettent de créer autre chose, en quelque sorte. La confrontation entre la perspective républicaine et la perspective, ça c'est le vocabulaire de ceux qui utilisent ces choses-là, la perspective pédagogique, la confrontation des deux, c'est précisément au niveau de l'école, dans le cadre de l'école, la confrontation dans la société, vous dites que nous n'avons pas que c'est la même, la confrontation dans la société entre le fait de déterminer ça par ça ou de déterminer quelque chose là par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est la confrontation des deux. C'est-à-dire que vous dites l'un est plus important que l'autre. En fait, les deux, c'est les mêmes. Simplement, la perspective républicaine et la perspective pédagogique, c'est dans le cadre de l'école. C'est la même chose, mais dans le cadre de l'école. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est ce débat-là qui pose problème dans l'école, qui est donc traité dans l'école, avec ses propres termes, évidemment. Mais c'est le même. C'est le problème. Oui.
Si vous voulez, on pourrait un travail pratique pour la prochaine fois. Comme ces derniers coups ou l'avant-dernier. Comment définir l'intérêt général? Allez-y. Non pas de définir, non pas de donner un contenu, mais comment procéder pour aboutir à l'expression d'un intérêt général. Tout va revenir, et comment élaborer l'intérêt général. Voilà le problème. Est-ce qu'il faut que je le réfère à Dieu? Est-ce qu'il faut que je le réfère au système économique? Est-ce qu'il faut que je le réfère à quoi? D'où je tiens ce qui est l'intérêt général?